Sur FM+, c'est probablement la première fois qu'un entrepreneur dans l'univers des jeux a la parole dans l'une de nos émissions. Les jeux de hasard sont des lieux d'addiction, de non-contrôle et de perte financière. Toutefois, une radio associative comme FM+, est aussi un lieu de parole ouvert. J'ai donc le plaisir d'accueillir le Montpelliérain Prosper Masquelier. Bonjour Prosper Masquelier.
Bonjour Guylaine Dubois, merci de me recevoir sur Radio FM+.
Avec grand plaisir. Alors, Prosper Masquelier, vous avez créé en 2014 la société Market Luck qui propose les applications Bravo Loto, Bravo Speed et Bravo Coin, trois jeux de loterie gratuites, des jeux de hasard gratuits qui utilisent la publicité comme moyen de financement. Alors, Prosper Masquelier, l'univers des jeux est un univers qui ne vous est pas étranger.
Bah, tout à fait. Hein. Je viens d'une famille qui fait du jeu d'argent, notamment la famille Partouche. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui détiennent des casinos en France. Mais moi, j'ai pris un autre parti pris, c'est que moi, je fais des jeux gratuits. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, il était possible de laisser les gens jouer sans dépenser un euro. Et donc, on est parti de ce parti pris-là. Et là, on a commencé à créer des jeux qui sont les mêmes jeux que vous retrouvez dans les bureaux de tabac, que vous retrouvez dans les casinos, que vous retrouvez un petit peu partout. Ce sont des jeux de hasard purs, mais financés par la publicité. C'est-à-dire qu'au lieu de payer, bah vous regardez des vidéos publicitaires qui nous permettent à nous de financer les gains des gens qui jouent. Donc, quand je me retrouve sur Radio FM+, qui est une radio associative, nous, on n'est pas une société, nous, on est une société lucrative, mais en réalité, on fait quand même attention à nos clients et on essaye de trouver des nouvelles manières de les faire jouer sans leur faire dépenser d'argent.
Alors finalement, leur façon de payer, c'est de regarder pendant 3 minutes une vidéo de l'un de vos partenaires et ensuite, ils ont l'autorisation de jouer. C'est le sésame finalement, la publicité.
Ben, je vais vous dire une phrase qui me plaisait pas trop à l'époque d'un grand patron qui disait « on vend du temps de cerveau disponible ». Et en réalité, les annonceurs, ils viennent chez nous. Pourquoi ? Parce que ils savent que juste avant de jouer, notre utilisateur va être focus et va vraiment visualiser l'ensemble de la publicité. Donc, c'est un peu du temps de cerveau disponible.
Je parlais bien sûr d'addiction. Hein, le jeu, on le sait maintenant, c'est une addiction, une pathologie. Est-ce que pour vous, cette façon de faire, de procéder que vous venez de décrire est une façon de contourner cela, cette addiction-là? Ou bien est-ce que c'est simplement pour que ce soit gratuit, cette notion de gratuité?
Moi, je pense que c'est quand même important de ne pas mettre les gens dans des situations qui peuvent être dramatiques. Il y a un point essentiel dans les jeux de hasard, c'est que c'est souvent des jeux payants. Et les jeux payants, au-delà d'avoir une addiction au jeu lui-même, quand on se retrouve dans une situation financière compliquée et qu'on commence à perdre beaucoup d'argent, c'est là que les problèmes démarrent et démarrent encore plus. Parce que jouer et passer son temps à jouer toute la journée, vous savez, je vais vous dire, c'est comme pour les enfants, quand vous les voyez jouer à Fortnite, qui sont des jeux de guerre où ils tirent sur tout le monde toute la journée. Et hélas, on l'a tous entendu, ça, dans des écoles, un jour, un gamin se lève et va tirer réellement sur d'autres enfants. C'est arrivé aux États-Unis, c'est arrivé. Ça, c'est le point ultime comme vous l'avez dit. Ouais. Je pense pas que nos utilisateurs prennent autant de plaisir que les jeux fabriqués par toutes ces sociétés comme Ubisoft, sur PlayStation, tout ce genre de jeux. Déjà, vous jouez pas d'argent. En fait, le risque est vraiment. C'est quoi le risque en réalité? C'est qu'il y passe beaucoup de temps.
Qu'ils s'isolent socialement aussi. On dit que les joueurs s'isolent socialement. Ils n'ont qu'une obsession, c'est le jeu.
Ouais, mais alors moi, je vais vous répondre, Guylaine, par autre chose. Vous savez, dans les casinos, par exemple, moi, je pense que c'est plutôt le contraire. Je pense que les gens, ils y vont pour vous. Là, je vous parle des jeux payants. Hein. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué dans les casinos, c'est qu'en fait, les gens, ils aiment aller au casino. Pourquoi? Parce qu'ils rencontrent d'autres personnes. Et souvent, c'est parce qu'ils sont socialement, eux, seuls à la maison, qu'ils ont besoin de sortir. Et oui, ils vont peut-être jouer 10, 20, 30, 40, 50 euros, mais ils vont passer une soirée, ils vont voir d'autres personnes, ils vont boire un coup, ils vont rigoler. Vous savez, les casinos, à la base, ils ont été construits pour créer du lien social. Et je pense que, vous savez, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, hein, qui n'a rien à voir avec les jeux qu'on fait nous. Mais pour revenir au casino, parce que je connais bien ce monde, vous avez beaucoup de vieilles personnes qui sont au casino. Pourquoi ? Souvent parce qu'elles sont seules. Et quand on est seul, vous savez, c'est comme les chevaux, hein, l'être humain. Vous laissez un cheval tout seul dans un pâturage, il est malheureux. Dès que vous le mettez avec quelqu'un, il peut vivre beaucoup plus longtemps.
Oui.
Je dis pas qu'il faut pas. Il y a sûrement des gens qui aiment vivre seul, mais quand on est trop seul et qu'on manque de lien social, je pense pas que ce soit. Je pense que l'être humain il a besoin de sociabiliser.
Nous l'avons vu dans ces temps de confinement, le nombre de personnes qui ont besoin de voir des psys, qui se sentent isolés, qui n'ont plus de relations tout simplement dans les cafés du coin. Nous le voyons bien tous les jours.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est pesant. Oui. C'est pesant. Je pense à moi, j'ai un frère qui est célibataire pendant le confinement. Je pense que ça a été un petit peu long. Je pense que c'est un peu seul aussi. Oui. Mais bon. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est une interview qui vous savez quoi, c'est une interview originale et très sympa. J'ai pas l'habitude de faire ce genre d'interview. D'habitude, on pose des questions sur des chiffres et les perspectives, les prévisions et le business plan et les salariés. Donc, j'aime beaucoup cette interview, Guylaine.
Il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini. Attendez, vous n'êtes pas.
Mais avec plaisir.
Alors j'allais justement rentrer un peu dans le contenu même de cette société Marketluc. Alors, on annonce des chiffres dans les journaux, des chiffres de développement assez gros, important. On parle de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous, quel est votre vrai objectif, votre objectif majeur? Vous voulez encore plus? Là, vous avez trois jeux.
Mon objectif majeur? Alors, je vais vous dire, moi, je suis un faux entrepreneur. Je pense que je vais vous dire clairement, voilà. Moi, c'est pas faire plus de chiffre d'affaires, plus d'argent, plus de ça. Je vais vous dire, c'est ce qui va avec la réussite d'un groupe. Moi, ce qui m'importe, c'est de créer des nouvelles idées, d'embarquer mes collaborateurs avec moi dans des nouvelles aventures, de s'amuser, de rire, d'échanger. Je vais vous dire, j'ai rencontré un monsieur qui est donc aujourd'hui l'actionnaire de notre société, qui s'appelle Philippe Ginesté, qui est le fondateur des magasins Jiffy, qui est un homme qui fait partie des 30 ou 40 personnes les plus riches de France. Et ce qui m'a beaucoup plu chez cet entrepreneur, c'est qu'il a gardé son âme. Et malgré la réussite scandaleuse de son groupe, c'est-à-dire, je pense qu'il y a presque, dans son groupe, il y a presque 1000 magasins, 10 000 collaborateurs, il est arrivé à garder et à centrer l'humain autour de cette réussite, par de la reconnaissance, par des aventures. Et au fond, même si ça peut être un capitaliste hors pair et un homme, on va dire, je pense pas qu'il c'est un homme qui se fait marcher dessus, parce que sinon, vous n'arrivez pas à ce stade de réussite. Mais moi, ce qui me plaît, c'est que il fait encore avec le cœur, il fait encore avec ses envies. Il est atypique. Moi, je le vois dans sa manière de pousser tous les gens qui sont autour de lui. Moi, c'est ça qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est de voir des gens heureux autour de moi, de voir des gens qui gagnent leur vie, qui sont. Vous savez, c'est comme une équipe. C'est comme une équipe de foot. Un de mes films préférés, si un jour vous avez l'occasion. Vous irez regarder Les yeux dans les bleus. Les yeux dans les bleus, c'est un film. En 98, c'est un monsieur, je crois que c'est Stéphane Meunier, qui suit 24-24 l'équipe de France, qui va gagner la Coupe du Monde. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'on voit les dessous d'une équipe. On voit les dessous d'une équipe, on voit des joueurs qui souffrent, on voit des joueurs qui ont des stratégies, des idées. Mais moi, ce que j'aime, c'est la notion de groupe. Et j'ai rencontré un jour un grand producteur de cinéma français qui m'a dit « On a besoin d'être entouré de monde pour des moments de bonheur. » pas pour des moments où on est dans la défaite ou des moments où on est triste. Ce qu'on a besoin, c'est de partager le bonheur. Et moi, en réalité, je pense que et je trouve que ce coronavirus et tout, ça amplifie encore plus que je pensais, c'est que le capital, voire des fortunes de n'importe quoi, de 200 milliards, un mec qui a une réussite de 200 milliards d'euros, je trouve ça indécent. Je pense qu'à un moment donné, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce monsieur qui a une fortune de 200 milliards, moi, ça me choque pas si on me dit qu'il a 200 000 personnes avec lui qui sont heureuses. S'il est capable de faire plaisir ou de rendre heureux les gens qui sont dans son groupe, moi j'aimerais bien qu'un jour on arrive à quantifier, au-delà de l'argent, qu'est-ce qu'on apporte à la société. Vous savez, je suis ni un homme de gauche ni un homme de droite. Moi j'ai des idées, mais il y a des choses qui sont indécentes. Donc moi j'ai pas pour ambition de dire ah ma société elle va valoir 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Moi, ce qui me plaît, c'est de me lever le matin, de voir qu'autour de moi, les gens sont heureux. Alors, c'est peut-être très utopique ce que je vous dis, mais c'est une réalité. Moi, quand j'ai un collaborateur qui va pas bien, alors attention, hein, je ne rentre pas dans la vie privée si la personne elle ne l'autorise pas, mais j'aime bien savoir ce qui se passe. J'aime bien savoir quand quelqu'un va bien, pourquoi. J'aime bien savoir et j'aime bien partager quand ça marche. Donc ce film, pardon, hein, je parle beaucoup. je vous disais que ce film, Les yeux dans les bleus, ça se finit en plus par la victoire en Coupe du Monde de l'équipe de France. Et ce film, c'est quelque chose que je montre souvent aux gens qui travaillent avec moi parce que je le trouve génial. Donc, vous retrouverez Zinedine Zidane, Christophe Dugarry, Vicente Lizarazu. Et comme j'aime le sport, et j'adore, voilà. Donc, ça, c'est un film. Guylaine, je vous encourage à aller le regarder un jour.
C'est noté. Alors, okay. Vous parlez d'équipe. Quand il y a une équipe, il y a un leader. Est-ce que ce leader-là, dans votre utopie d'une société commerciale qui fonctionne bien, doit être, comme vous le dites, charismatique, et charismatique et empathique. Cette posture de leader, comme je vous vois là, je me dis qu'elle est prioritaire pour que ça fonctionne.
Oui, j'ai envie de vous répondre oui. Mais vous savez, je reviens juste au-delà de... Parce que nous, notre actionnaire majoritaire, c'est Philippe Ginesté. Oui. Nous, au-delà de l'argent qu'il a apporté pour développer, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris de lui. C'est-à-dire que il y a une obligation, il y a une réalité économique pour faire réussir une entreprise. Ça, c'est indéniable. Et c'est même l'indice de mesure, on va dire, aujourd'hui, au niveau... aujourd'hui, on regarde au niveau capitalistique, on regarde un chiffre d'affaires, on regarde... Tout ça, c'est bon, ça fait partie du jeu, ce sont les règles. Mais dans tous les cas de figure, le degré de... J'ai l'impression de... Je vais passer pour un bisounours, mais le degré de bonheur de nos salariés, de leur engagement, de leur envie, de leur sentiment d'appartenance, tout ça, c'est quand même quelqu'un qui se sent bien. Quelqu'un qui se sent bien, il va vous donner le meilleur de lui-même. Vous savez, moi, j'ai deux choses dans lesquelles je suis vachement fier dans ma boîte. Déjà, j'aime pas dire le mot boîte parce que ça fait un peu enfermé, mais dans notre compagnie, c'est que on est à majorité féminin. Et moi, je vais vous le dire, les femmes, souvent, travaillent mieux que les hommes, sont beaucoup plus appliquées et sont beaucoup plus sérieuses. Ça, c'est une chose dont je suis assez fier. Et je ne sais pas, et je vais vous dire, et ça s'est fait naturellement. Ça, c'est un. Et la seconde, c'est qu'on a pratiquement pas de turnover. C'est-à-dire que, on est une petite société, attention, hein. Nous, aujourd'hui, on est une, on va dire, sur l'ensemble des collaborateurs qui travaillent, on doit être une vingtaine. J'ai pas eu encore, je sais pas si je dois toucher du bateau, j'ai pas eu encore de démission et toutes les personnes qui travaillent avec nous depuis le début, elles sont pas parties. Donc, c'est pas qu'une question d'argent, c'est pas qu'une question parce qu'ils auraient pu peut-être, je pense que c'est un global. C'est un global. J'attache beaucoup d'importance à ce qu'on, une, deux fois par an, qu'on se réunisse tous, parce qu'aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup en télétravail depuis le premier confinement. Donc, on est sur plusieurs villes en France. Et aujourd'hui, on a même des gens qui nous ont rejoints, qui ont été embauchés quasiment sans qu'on les rencontre, par des échanges, par du digital, par des vidéos comme on fait ensemble, Guylaine. Et en fait, je trouve ça super.
Juste pour revenir, trois jeux à votre actif, vous m'avez répondu voilà, que votre ambition, elle est peut-être ailleurs que dans un développement, de société. Est-ce que quand même, vous avez envie de continuer dans cette perspective de jeu de...
Nous, on est dans l'obligation. Parce que Guylaine, même si on... moi, à titre personnel, je veux pas dire philanthrope, mais parfois, je fais des trucs qui sont pas là pour ni me rapporter de l'argent, mais qui sont là pour me satisfaire personnellement. On a quand même... Marketex, c'est quand même une entreprise. Il y a quand même une réalité économique. Et ça, je peux pas en faire, abstraction. Donc, on fabrique des jeux pour les monétiser au mieux. Et nous, la suite logique de notre histoire, c'est de créer des nouveaux jeux souvent et le plus souvent possible. Donc aujourd'hui, on a ouvert des nouveaux studios. On travaille avec des nouveaux studios pour développer plus vite. Et donc, il y a la réalité économique, on peut pas la, parce que sinon on serait tous à la plage et on boirait des mojitos sur la plage et on serait tranquille. Non, il faut quand même, on est obligé de travailler quand même et travailler dur.
Travailler dur, travailler aussi dans le plaisir, vous l'avez dit.
Ouais, mais l'un va pas sans l'autre. Je crois qu'il n'y a pas de satisfaction de la difficulté ni la grandeur. Donc, nous, ce qu'on fait, je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup qui le font. C'est parce que c'est quand même un métier super compliqué.
La question des jeux monétisés particulièrement ?
De créer créer des jeux qui vont être monétisés par la publicité,
oui.
Je pense que ce n'est pas super facile. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui le font.
D'ailleurs,
après, vous avez...
La Française des Jeux, vous avez eu des démêlés avec la Française des Jeux. C'était un précaré finalement. La Française des Jeux considérait
ce oui, mais la...
un précaré.
Oui. Bon. Mais la Française des moi je vais vous dire, moi j'adorerais travailler avec la Française des Jeux parce qu'en réalité, s'ils réfléchissaient un petit peu, on pourrait être un de leurs meilleurs partenaires. Nous aujourd'hui, on a presque un peu plus de 20 000 nouveaux clients par jour en France, tous les jours. Donc, si on réfléchit un tout petit peu, ils viennent jouer sur des jeux de hasard, ils regardent la publicité. Quel meilleur annonceur que la FDJ pour être chez nous? Et ils le sont pas. Bon, écoutez, moi, je dont acte. J'espère qu'un jour ils le seront. Nous, ils nous ont attaqué sur. Vous savez, ils nous ont attaqué comme une vieille dame qui est dans son beau château avec ses chiens qui sont là et qui entendent. Sonner à la porte et qui vont venir grogner. Mais bon, ça va pas plus loin. Nous, on n'a aucune rancœur envers la FDJ, bien au contraire. Donc, on verra ce qui se passera. Mais bon, on va à l'international. Aujourd'hui, on se tourne vers l'international. Et donc, eux, c'est pas trop leur marché, ça, puisque c'est une société française. Mais je vais vous dire, moi, j'aimerais bien à terme. Faire des jeux de hasard un peu avec un système d'abonnement comme à la Netflix. Moi, par exemple, avoir des jeux de hasard avec un abonnement mensuel. Ça éviterait à nos clients de regarder de la publicité, par exemple. Et surtout, ça leur permettrait de mesurer, de se dire, je dis n'importe quoi, 4,99 par mois ou 9,99 par mois et tu as accès à tes jeux de hasard tranquillement. Donc, tu limites tes risques. Ça, je pense que la FDJ, elle va pas trop aimer. Et je ne m'interdis pas de peut-être un jour les attaquer à la Cour européenne, parce que je pense c'est un monopole abusif qu'ils ont aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi il y a que eux qui ont le droit de faire du jeu de hasard payant. Donc je vous dis une chose, Guylaine, je vous envoie une bombe parce que je l'ai jamais dit à personne ça.
Je la sens dans mes mains, je la sens cette bombe. On n'a pas encore allumé l'étincelle, mais...
je comprends pas pourquoi les jeux sont ouverts. Je vois pas pourquoi la loterie en ligne, il y aurait que. Alors, après, je sais pas si on le fera. Hein.
Ça s'étudie.
Non, mais voilà, ça s'étudie, ça se réfléchit. Mais disons que voilà, nous on est tranquillement, on continue à faire nos jeux. Mais je vous dis, le système d'abonnement, ça, c'est un truc qui me plairait bien. Parce que moi, j'ai des abonnements de tout. J'ai des abonnements téléphoniques, j'ai des abonnements pour Canal+, j'ai des abonnements pour Netflix, j'ai des abonnements, je sais pas, pour... qu'est-ce qu'on a comme abonnement encore ? On a pas mal des abonnements, non ?
À des magazines, à de la presse écrite, pas ?
Non, je regarde du... là, ça, je regarde du gratuit.
Mince.
C'est vrai ? Ah non ! J'ai peut-être un abonnement peut-être de Midi Libre ou du Monde. Si, c'est vrai, j'ai le Midi Libre, le Monde, j'ai le Parisien, j'ai... Si, ah, finalement, si, c'est vrai.
À une salle de sport, enfin maintenant, peut-être pas, mais peut-être vous aviez ça, un abonnement à une salle de sport.
J'ai pas d'abonnement à une salle de sport. Vous en avez, vous ?
Non, j'en ai pas, j'ai pas le temps. Mais en fait, vous êtes un homme de fidélité. Fidélité à votre famille, quelque part. Vous avez une maternelle. Fidélité, voilà, vous l'avez dit, à un fonctionnement.
Ah, j'aime bien ce mot, oui. Bon. Je suis fidèle à mes amis, à ma famille, à ma femme, à mes enfants, à mon entreprise, à mes associés. Ouais, j'aime bien ce mot. Ça me plaît bien, ouais.
On termine là-dessus ?
Mais avec plaisir, c'était bien ce petit mot de fin.
Merci, François Masquelier. Vraiment, c'était
bien. Moi, Guylaine, c'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
C'est vachement sympa. Allez, vous aussi.
Au revoir.
Au revoir. Thank you.